Il y a Todorov qui disait que dans le rapport à l'autre, parfois on voit l'autre comme étant supérieur à nous, ou parfois on le voit comme inférieur à nous, mais jamais ou rarement on le voit comme étant simplement différent, différent et égal. Et je pense que pour tous ceux qui luttent contre le racisme, l'idée c'est de dire acceptons l'autre en étant différent et égal à nous.
Je reçois le vice-recteur à la recherche, à la création, à la diffusion de l'Université du Québec à Montréal, en abrégé l'UQAM. Christian Gobly, bonjour.
Bonjour, monsieur Kouala.
Et surtout, félicitations. Il y a quelque temps encore, j'allais dire que je reçois le directeur du département de communication sociale et publique de l'UQAM. J'allais dire que je reçois bien évidemment le professeur Christian Gobly, le cofondateur du GRCI, qui est le groupe d'études et de recherche axé sur la communication internationale et interculturelle. Et depuis le mois d'avril, donc, je dois rajouter vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion de l'UQAM. C'est une première en soi, puisque Christian Gobly, vous êtes le premier néo-québécois subsaharien vice-recteur à l'UQAM.
Oui, je pense en tout cas si ma mémoire est bonne ou si les recherches sont bonnes, effectivement, je serai ou je suis le vice-recteur, le premier vice-recteur subsaharien à l'UQAM. Au Québec, il faudrait vérifier aussi. En fait, je m'identifie ou la manière dont je vois cette nomination, c'est davantage la nomination de quelqu'un qui a un parcours, qui a fait un travail et qui, par ce travail et par le processus de sélection, se retrouve à ce poste-là. Maintenant, si le fait d'être vice-recteur est une première, si ça joue un rôle en termes de role model, si on peut dire, ou d'image pour les gens des communautés africaines, ben ce sera un plus, si on peut dire, dans ce parcours-ci.
Je ne dirais pas si on peut dire, permet. Alors moi, je vais me mettre dans cette position-là. Permettez-moi de dire qu'effectivement, oui, c'est une première, oui, c'est une fierté, oui, c'est quelque chose qui sert de référence. Et surtout dans un contexte, il est vrai que la nomination elle date du mois d'avril, hein, pour être beaucoup plus clair, mais il est évident que dans un contexte, pas mondial, mais occidental, où le vivre ensemble entre les différentes composantes des populations, donc noir, blanc, est un peu, je dirais, délicate. Il est évident que vous comprendrez que ça fasse du bien à quelques esprits, dont le mien.
Ben oui, je comprends tout à fait, d'autant plus que tout cela s'insère, et là vous avez raison de le dire, dans tout un débat actuel, une discussion actuelle autour des questions autour du racisme systémique, etc. Je vous dirais que ce débat est légitime d'une certaine façon. Est-ce que ma nomination s'insère dans le cadre de ce débat-là? Je vous dirais que je pense que la société québécoise a montré depuis longtemps une certaine ouverture à la différence aux Québécois d'origine autre. Maintenant, c'est clair aussi, et l'UQAM reflète cette ouverture-là par ma nomination. Maintenant, ce n'est pas parce que, et ça je le dis souvent, ce n'est pas parce qu'il y a un noir, un arabe ou un autochtone qui est nommé quelque part ou qui a une référence qui montre que la société doit s'arrêter là et doit considérer que cela, que son travail est fait. Je pense au contraire qu'une société doit prendre en compte les besoins de l'ensemble de la communauté, Donc, autant les néo-québécois que les Québécois de souche ancienne, encore que on peut se demander c'est quoi la souche ancienne. Est-ce que ce sont ce qu'on appelle communément les pure laine ou plutôt les Premières Nations, les autochtones? Donc, il y a aussi des discussions à voir autour de ça. Mais je crois que toute société doit effectivement avoir un débat, une discussion saine sur la manière dont on traite chacun et chacune de ses citoyens. Maintenant, le Québec fait bien, peut faire mieux ou peut faire plus, comme toute société d'ailleurs. Mais ma nomination, je la vois d'abord comme celle d'un chercheur, parce que je suis un chercheur, vous l'avez bien mentionné, quelqu'un qui a mené des recherches autour des technologies, de la communication internationale et interculturelle, autour aussi de ces enjeux de société, d'inclusion, d'exclusion, de diversité, du rôle des médias dans l'intégration, du rôle des diasporas. Donc, c'est autant d'enjeux qui sont au cœur de mes réflexions comme chercheur.
Tout à fait. Commençons par le début. Christian Agbogli est de quelle région de l'Afrique?
Alors, je suis d'origine togolaise, donc je suis né à Lomé, la capitale du Togo. Comme certains Togolais ou Québéco-Togolais le disent, ils se définissent souvent comme des Tokakois, donc Togolais, Canadiens, Québécois. Je ne sais pas si je dirais que je suis un Tokakois, je suis un Québécois d'origine togolaise.
Arrivé au Québec, il y a, on est en 2020, il y a quoi, 10 ans, plus de 10 ans,
Oh,
non?
ça fait plus de 20 ans que
Plus de 20 ans, ouais.
je suis au Québec où je suis venu étudier et finalement où je suis resté.
Donc, professeur depuis 2006 à l'Université de
Du
Québec
Québec à
à
Montréal.
l'UQAM, dans ce département dont le communication sociale et publique. C'est quoi la communication sociale? En un mot.
Alors, la communication sociale, c'est ou la communication de manière générale, c'est tout ce qui a lien avec l'interaction, les échanges, les liens entre les uns et les autres. Donc, la communication sociale, c'est cette interaction qui se fait sur le plan social entre les individus, les groupes, les organisations. Maintenant, la communication publique, c'est davantage une forme de communication qui est présente dans l'espace public, dans les organisations, dans les entreprises, dans ce qu'on pourrait appeler tout ce qui va relever des liens ou des interfaces entre une organisation et ses publics. Et les publics sont diversifiés, ça peut être autant des clients que des employés, que toutes sortes de publics possibles avec lesquels l'entreprise ou l'organisation collabore ou intervient ou échange. Donc, la communication sociale, d'un côté, c'est ce qu'on pourrait dire vulgairement une interaction en société, et la communication publique, ce sont des échanges, des interactions avec le public.
Alors, depuis 2017, vous êtes directeur de ce département-là, celui de la communication sociale et publique à l'UQAM. Et entre-temps, vous avez créé ce groupe, le GERCI, qui est un groupe d'études et de recherche axé sur la communication internationale et interculturelle. Parce que c'était une demande.
En fait, c'est peut-être en lien avec mon expertise, si je peux dire les choses ainsi, parce que je suis spécialisé en communication internationale interculturelle et dans le vaste champ de cette discipline qu'est la communication. On en a parlé de deux, la communication sociale, la communication publique, mais il y a également la communication internationale, il y a également la communication interculturelle. Pourquoi est-ce que nous avons développé, créé le GERACI? Je dis nous parce que c'est vraiment une équipe de collègues, nous étions quatre au départ à l'avoir créé. C'est parce qu'il y a toute communication se fait à la fois dans une dynamique internationale, c'est-à-dire qu'aucune société ne peut penser fonctionner en autarcie, toute seule dans son coin. Donc, il y a toujours un lien avec l'international. Et donc, les stratégies de communication, c'est comment est-ce que la communication se réalise à l'échelle internationale. Il y a différents niveaux pour ce faire. Mais maintenant, parler de l'international revient aussi à parler, si je peux dire les choses ainsi, de l'interculturel, parce que nous sommes toutes et tous de cultures différentes. Et donc, la communication interculturelle, c'est comment est-ce qu'on peut communiquer malgré nos différences culturelles. Et donc, le but derrière tout ça, c'est de dire, mais apporter cette expertise-là, la renforcer et puis faire en sorte qu'on contribue à une sorte de vivre ensemble autant dans la société québécoise qu'à l'échelle internationale. D'ailleurs, à coller ou adosser à cela, nous avons créé une maîtrise en communication, concentration communication internationale pour pousser plus loin en termes de formation, en termes d'apprentissage, cette expertise auprès de nos étudiantes et étudiants. Et Lucas m'a permis à ce groupe de se déployer parce que Lucas développe beaucoup cette identité ou cette force internationale-là, parce que nous avons des étudiants qui viennent d'un peu partout. Nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui viennent d'Afrique subsaharienne, mais aussi du Maghreb, entre autres. Et donc, cette dimension internationale et interculturelle, je me plais à penser que ça répond, ça correspond aussi à l'UQAM, qui est un peu le Québec en miniature. Et donc, les étudiants sont censés devenir par la suite des néo-québécois, si on peut dire les choses ainsi.
Vous avez dit que les étudiants viennent à l'UQAM, mais vous allez aussi vers les étudiants dans les autres, notamment le continent européen.
Oui, c'est vrai que c'est sûr que je suis prof en communication internationale et je suis sollicité aussi à l'étranger. J'ai eu enseigné au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Europe. J'ai eu des conférences en Corée du Sud
Et au
également.
Togo?
Au Togo aussi,
Oui.
j'ai eu à donner des conférences également au Togo. Je l'ai fait en termes d'enseignement, mais aussi pour des ambitions de recherche. Et je crois que toute la question de l'international est également au cœur des ambitions de l'UQAM, et notamment du vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion. Parce que aujourd'hui, si on doit mener des recherches, ce sont des recherches qui se font également, peut-être pas toujours, mais qui se font également dans une logique de collaboration internationale. La création aussi, par exemple, en termes artistiques, je vais vous donner un exemple. Nous avons un centre de design où nous avons des designers, ou même nous avons une école supérieure de mode où vous avez des partenariats qui se font entre des designers de la mode québécois et internationaux. En termes de diffusion, mais c'est comment diffuser l'expertise du Camien, donc l'expertise québécoise à l'échelle de la planète. Donc, il y a toutes ces ambitions-là qui sont présentes. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, je pense qu'il y a un fil conducteur entre ce qu'a été mon expertise sur mes implications et sur ce que je fais maintenant à titre de vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion.
Toujours en compagnie de Christian Agbobli, professeur de communication internationale et interculturelle à l'UQAM, vice-recteur de la recherche, de la création et de la diffusion.
Quand vous parlez aux gens à l'extérieur, vous leur dites venez à l'UQAM ou collaborez. Pourquoi? Parce qu'ils vont y trouver quoi?
Alors, je vous dirais qu'ils vont retrouver à l'UQAM une famille, une ambiance, une expérience, une expertise également. Parce que l'UQAM, je me plais à dire que l'UQAM, c'est le Québec en miniature. C'est-à-dire
J'oublie que je
que.
parle à un communicant là.
Non, du tout. Vous savez, l'UQAM, c'est le Québec en miniature. Si vous et moi, nous sommes venus au Québec, c'est parce qu'on a été attirés par le Québec, par la population québécoise, ce que nous sommes devenus, qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire un ensemble d'ouverture, de simplicité, d'accueil, et également une expertise, sans nécessairement se prendre toujours au sérieux, si je peux dire les choses ainsi, c'est-à-dire qu'on a cette compétence, cette énergie, mais qu'on n'est pas pédant, on ne se la joue pas comme si on a révolutionné le monde, même si on est en train de révolutionner le monde. Donc moi, je crois que c'est ça qui peut potentiellement attirer des étudiants à l'UQAM, et les étudiants, quand ils viennent, ils sont très contents d'être à l'UQAM. Maintenant, c'est sûr que la société québécoise, tout en étant ouverte, doit être vigilante aussi sur sa capacité d'ouverture et d'accueil. Je vais vous donner juste un exemple. Parlons du PEC, le programme d'expérience québécoise. Je
Exactement.
vous connais très bien parce que je sais que vous m'aurez attiré vers ce dossier. Vous savez, à l'UQAM, notre position est très claire. Notre rectrice, Magda Fusaro, a demandé à ce que la nouvelle mouture du PEC soit retravaillée. Parce que nous, comme université, nous souhaitons accueillir des étudiants étrangers et les accueillir, c'est aussi leur dire, vous venez au Québec, vous allez avoir une expérience unique en étudiant à l'UQAM, et cette expérience-là, la société québécoise souhaiterait l'avoir. Et pour ce faire, il faut modifier le PEC, s'assurer qu'après leurs études, que les étudiants aient cette possibilité de continuer à vivre au Québec. D'autant plus que nous accueillons des étudiants francophones. Et ce qui
Exactement.
fait notre identité comme Québécois, mais aussi comme université publique québécoise, c'est le fait de mettre en valeur le fait français, la langue française, et qui nous réunit les uns les autres. Et c'est pour ça que nos étudiants viennent chez nous, sans compter la réputation de nos programmes, la réputation de nos chercheurs et la réputation de l'institution.
Question d'actualité. Je m'adresse aux chercheurs, je m'adresse aux spécialistes de communication, je m'adresse aux Tokakwa aussi. Hein. L'actualité, on l'a dit, est dominée surtout par le fait du racisme. Il y a quelques semaines, vous avez, en compagnie d'un de vos collègues, publié une tribune sur le racisme. Tantôt, quand on a commencé à parler, vous m'avez dit, oui, le racisme systémique. Un mot que les gouvernants actuels ne veulent pas entendre. Alors, je pose la question de but en blanc je l'ai dit, aux professeurs, aux chercheurs, aux citoyens, aux Tokakwa. Christian Agbobli, lorsqu'on dit qu'il y a racisme systémique au Québec, qu'est-ce que cela veut dire?
Alors, quand on dit qu'il y a racisme systémique au Québec, ça signifie qu'il y a déjà du racisme et que ce racisme-là est présent de manière volontaire ou involontaire dans les structures de la société. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, par exemple, quand on veut embaucher quelqu'un, et ça, les statistiques le montrent, que vous appelez Mamadou, vous venez du Mali, vous avez moins de chances d'être embauché. La personne qui ne vous embauche pas, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle est raciste, mais c'est parce qu'elle a l'expé comment dire, elle n'a pas souvent l'expérience d'être en interaction avec quelqu'un québécois d'origine malienne, et donc va se tourner de manière beaucoup plus naturelle vers quelqu'un qui lui ressemble, peut-être quelqu'un qui est né à Mascouche. Et donc, ce faisant, va exclure le Québécois d'origine malienne du processus d'embauche. Ce n'est pas en étant raciste nécessairement. Par contre, c'est en faisant ce qu'on peut appeler du racisme systémique, c'est-à-dire sans nécessairement le vouloir, va exclure une catégorie de la population en raison de ses origines. Et je crois que s'il y a ce débat au Québec, c'est parce que les gens ont tendance à vouloir faire un débat sur le mot ou sur les mots. On va dire racisme, on ne veut pas dire racisme systémique. Je crois qu'on peut très bien dire qu'il y a du racisme. Ce n'est pas tout le monde. Même dire qu'il y a du racisme systémique, ça ne veut pas dire qu'on prend chacun des 8 millions de Québécois qui sont racistes. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des structures de manière involontaire aussi, comme des gens de manière volontaire aussi décident de le faire, mais ça ne signifie pas que chacun des 8 millions est raciste. Et les gens confondent aussi ce qu'on appelle le racisme systématique avec le racisme systémique. Donc, faut voir, il y a des nuances aussi dans les termes à avoir. Maintenant, il faut savoir aussi que toute société est raciste, autant le Québec qu'ailleurs,
Toute
tout le monde.
société est raciste, dites-vous.
Ah ben, moi je suis d'avis que toute cité est potentiellement raciste ou à tout le moins xénophobe. On a la peur de l'autre.
C'est pas deux mots, ce ne sont pas deux mots différents?
Oui, ce sont
Avec
deux
deux
mots.
sens différents?
Alors, là, il y a ce qu'on appelle le racisme dans le sens classique du terme, qui est l'inégalité des races, qu'on appelait les races à l'époque. Et donc, dans la pyramide des races, la race noire était au bas de l'échelle et la race blanche tout en haut. Maintenant, on est arrivé à ce qu'on appelle le néo-racisme, une nouvelle forme de racisme qui va reposer davantage sur le déséquilibre culturel ou le fait de reconnaître les valeurs des cultures autres. Et donc, on va déplacer la vision du racisme sur une dimension culturelle et de valeurs. Donc, par exemple, mes valeurs sont irréductibles par rapport aux valeurs des autres. Et donc, quand on prend cette définition du racisme, bah, toute société est potentiellement raciste, dans le sens où on va considérer que, bon, ben, par exemple, vous êtes d'origine camerounaise, on va dire tel groupe ethnique ne s'entend pas avec tel autre groupe ethnique, ben, c'est une forme de racisme. Et donc, à l'intérieur de chaque pays, il peut y avoir aussi différentes modalités de racisme. Maintenant, la xénophobie, ça, c'est davantage la peur de l'autre. Donc, on voit autrui et d'emblée, on a peur de l'autre, qu'il vienne prendre notre job, qu'il prenne notre femme, qu'il vole ceci ou qu'il fasse cela. Et donc, cette xénophobie, elle est également présente. Il y a Todorov, Tsvetan Todorov, qui disait que dans le rapport à l'autre, parfois on voit l'autre comme étant supérieur à nous, ou parfois on le voit comme inférieur à nous, mais jamais ou rarement on le voit comme étant simplement différent, différent et égal. Et je pense que pour tous ceux qui luttent contre le racisme, l'idée c'est de dire acceptons l'autre en étant différent et égal à nous.
Le Québec vient de mettre en place un comité d'action contre le racisme qui est coprésidé par deux ministres, Lionel Carman et Nadine Giraud. Qu'est-ce que vous pensez de ce comité, de sa mission, il n'a encore rien fait, vous et moi on est d'accord. Mais ne serait-ce que dans sa conception, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ben, écoutez, moi je crois que il faut laisser le gouvernement faire son travail pour décider après des résultats de ce travail. Ce que on a entendu, c'est que le premier ministre du Québec dit qu'il est un homme pragmatique et qu'il veut les résultats. La lecture que j'en fais, c'est que ce groupe de travail, si comme ce ne sont que des ministres qui vont venir avec des indicateurs à la fin de leur travail, en se disant, ben, en termes d'embauche des minorités, voici les objectifs qu'il faut atteindre. En termes de le logement, voici les objectifs à atteindre. Et donc, à la fin, il y a une certaine imputabilité. Alors, si le gouvernement va dans cette direction, ben, on verra les résultats en septembre. Mais j'attends de voir les résultats de ce travail pour décider si le choix qui est fait par le gouvernement est le bon.
Toujours en compagnie de Christian Agboubli, professeur de communication internationale et interculturelle à l'UQAM, vice-recteur en charge de la recherche, de la création et de la diffusion.
Je voudrais qu'on termine avec un autre volet qui est toujours dans votre champ d'expertise puisque nous parlons de communication internationale. C'est lié à l'actualité, Christian Agboubli, c'est la pandémie de la COVID-19. Lorsqu'on a commencé à en entendre les chiffres, les dégâts, les conséquences, ainsi de suite, on nous a promis une hécatombe en Afrique subsaharienne. Et si l'on se fie aux critères d'évaluation des impacts de cette pandémie dans les pays, c'est-à-dire le nombre de contaminés, le nombre de morts, le taux de létalité, ainsi de suite, on se rend compte que les pays subsahariens, finalement, sont moins touchés que ce qu'on avait prévu. Alors, plusieurs questions en même temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous, les communicants internationaux? Qu'est-ce qui a bien marché, finalement, en Afrique? Est-ce que c'est un peu comme avec les sondages à l'époque dans les pays comme les États-Unis, je préfère en rire un peu, où tout le monde s'est trompé sur les résultats, notamment avec Donald Trump. Est-ce que c'est pas par hasard la même chose où les communicants internationaux se sont trompés aussi avec l'impact en Afrique?
Alors, monsieur Ikuala, vous posez toujours des questions très bien ciblées et vous avez raison de dire, et je m'inclus aussi parce que j'avais écrit un article en tout début de pandémie
En
où
effet.
je faisais partie de cette cohorte de personnes qui dressaient un avenir sombre pour l'Afrique. En fait, à toute fin pratique, je vous dirais que les constats demeurent malgré le fait que l'Afrique subsaharienne s'en soit bien, relativement bien sortie. Pourquoi je dis cela? C'est-à-dire que il faut prendre d'un côté la question épidémiologique et de l'autre les structures sanitaires en Afrique. C'est-à-dire que au moment ou au début quand il y a eu cette annonce de cataclysme ou de fin du monde pour l'Afrique, c'est qu'on était dans un contexte où on était avec un virus qui pouvait potentiellement tuer tout le monde de manière non discriminatoire. On parlait de racisme tantôt, ce virus n'avait aucun, ne
Oui,
faisait pas de
il n'a aucune
sélection.
velléité raciste, lui.
Voilà, visait tout le monde et vous pouviez être juste dans un lieu avec quelqu'un, puis vous pouviez la voir et en mourir. C'était ça le contexte de l'époque. Et donc, dans ce contexte-là, on se disait, ben, les structures sanitaires en Afrique subsaharienne n'avaient pas les capacités pour pouvoir répondre aux problèmes sanitaires dus au coronavirus. Et donc, il me semble que l'analyse, elle demeure encore, parce qu'en termes épidémiologiques, eh bien, le virus n'est pas, peut-être n'est pas aussi virulent qu'on l'aurait pensé. Peut-être que la dimension aussi, même si on s'est beaucoup moqué de Donald Trump, peut-être que la dimension de chaleur ou joue également avec le virus. Mais essentiellement, malgré tout, je dois dire que je dois souligner les efforts qui ont été faits globalement par les gouvernants en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que pour pallier au manque de structures sanitaires ou d'hôpitaux de pointe, etc., ce qui a été fait, ils ont beaucoup mis l'accent sur la prévention. Donc, avant même que les pays occidentaux, ben, ils ont beaucoup plus fermé les frontières beaucoup plus rapidement, mis en place les distances barrières ou les gestes barrières. Ils ont également mis de l'avant l'obligation du masque dans les pays. Bref, ces pays ont, je crois, essayé de faire d'adopter la méthode la plus recommandée. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, en termes de prévention, eh bien, il y a eu un travail important qui a été fait, et aussi en termes de communication. C'est-à-dire que les gouvernants ont pris le pouls de communiquer rapidement avec les citoyens. Je ne veux pas généraliser non plus, mais il y a certains pays, en tout cas Togo que je connais bien, je sais qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait dans les langues nationales, en français, avec tout ce qui était possible pour rejoindre le plus possible la population. Au Sénégal, ça a été fait. Au Cameroun, au début, il y a eu quelques critiques qui ont été faites, notamment quand le président de l'Assemblée nationale est revenu et qu'il n'y avait pas de gestes barrières. Donc, tous ces éléments-là, mais globalement, les pays se sont repris pour pouvoir prévenir davantage. Puis, il ne faut pas oublier que l'Afrique a également l'expérience enfin, l'Afrique subsaharienne d'Ebola, qui a fait en sorte qu'il y a, je pense, une expertise en réponse rapide en gestion de crise sanitaire reliée à des virus ou autres. Alors, c'est dans ce contexte-là que je pense que oui, nous avons tous péché, si on peut dire, en raison de la crainte du virus, mais en même temps, je crois qu'il y a eu un travail un très bon. Vous savez, souvent on critique beaucoup les gouvernements africains en disant de la corruption, il y a ceci, il y a cela. Mais quand ils font des bons coups aussi, je pense que c'est nécessaire de le soulever. Et je crois que dans le contexte de la COVID, il faut soulever les bons coups qui ont été faits. Maintenant, on peut pousser ces bons coups plus loin en disant, ben, on va faire en sorte d'améliorer les systèmes de santé.
C'est ça. Et moi, je voulais renchérir en disant que cette plutôt ce côté positif dans la gestion de cette crise-là, on devrait peut-être se servir de quelques outils là-dedans pour mieux gérer d'autres problèmes là-bas qui ne sont pas nécessairement d'ordre sanitaire.
Oui, tout à fait. Puis vous savez qu'avec nous étions 88 intellectuels d'Afrique et la diaspora à avoir écrit une lettre ouverte aux dirigeants africains, notamment en lien avec la COVID. Il y avait entre autres Wole Soyinka et d'autres qui ont signé cette lettre-là. Et je pense qu'on a mis là-dedans des éléments pour aider aussi les gouvernements pour mieux faire face, en fait, profiter de cette crise pour pouvoir aller de l'avant et améliorer les systèmes de gouvernance.
Alors, monsieur le vice-recteur à la recherche, à la création, à la diffusion de l'UQAM, professeur Christian Agboubli, je vous dis merci. Vous prenez vos fonctions dans quelques jours, le 13 juillet exactement. Je sais que c'est souvent réservé plutôt à l'ensemble de vos collègues, mais le premier chantier, ce serait quoi?
Alors, nous avons plusieurs chantiers sur la table, mais un des chantiers, peut-être ça pourrait vous intéresser, l'UQAM s'implique substantiellement dans ce qu'on appelait la question EDI, équité, diversité, inclusion. C'est mettre en place un certain nombre d'éléments pour favoriser l'intégration et l'inclusion de différents groupes à l'université, notamment en termes de recherche. On parle des femmes, des minorités, des personnes autochtones ou des personnes en situation de handicap. Là, il s'agit d'un chantier qui m'est cher, qui est cher aussi à l'université, à la rectrice notamment. Là, c'est un premier chantier d'importance. Un autre chantier d'importance, c'est l'arrimage entre la COVID et la recherche, parce que maintenant, l'Université du Québec à Montréal, nous sommes la plus grande université au Québec sans faculté de médecine, et donc nous menons des recherches en sciences humaines et sociales, et nous avons aussi des chercheurs qui travaillent sur la COVID, qui contribuent aussi à la lutte contre la COVID, et donc là également, c'est une des priorités de l'université. Mon rôle, je le vois comme celui d'un soutien aux chercheuses, chercheurs, créateurs, créatrices, pour les amener à davantage réaliser leurs recherches et à les soutenir dans la diffusion de celles-ci, de leurs recherches et de leurs créations.
Christian Gobi, j'ai envie de vous dire, allez, que votre chemin soit pavé de choses positives et que le résultat ne soit que réussite et succès. Puis vous dire que, au nom de beaucoup de néo-québécois subsahariens, entre autres, qui vous regardent, on a envie de vous dire bravo, félicitations encore. Voilà, vous ouvrez la voie pour d'autres dans l'avenir. Et on sait que le milieu universitaire on l'a souvent présenté comme un milieu très fermé. Vous êtes la preuve aujourd'hui que, bah, à force de travail, on arrive à bousculer certaines portes. Je ne peux m'empêcher de le dire.
Merci, je ne rajouterai rien à votre mot de la fin.
Merci beaucoup, Christian Goblin.
Merci de l'invitation.